VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Dakar, 18h à Libreville, bienvenue à notre journal. Au Tchad, les magistrats en grève sèche depuis environ un mois viennent de suspendre leur grogne pour un mois. La décision a été prise ce matin au cours d'une assemblée générale pour Alara Kété Sanengar, le président du syndicat des magistrats du Tchad. Cette suspension de mois vise à donner au chef de l'État du temps pour examiner leur doléance.
Dans nos démarches, nous avions rencontré il y a quelques jours le chef de l'État en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature. Il a été très réceptif à nos problèmes et il a promis de les examiner avec sérénité pour nous donner suite dans les meilleurs délais. Mais il nous demande en attendant de reprendre le service s'il y a lieu pour lui permettre d'examiner la chose normalement. On a suspendu le mouvement pour un mois. Le mot d'ordre qui est donné, le message, c'est de travailler, c'est pour protester contre un décret qui avait abattu les indemnités des gens à hauteur de 80%. Ça visait les membres des grandes institutions et les gens que, communément, on les appelle les décrétés. Mais dans les applications, les gens avaient voulu étendre ce décret-là à tout le monde. Ils l'ont même étendu à tout le monde. Et c'est un décret qui n'était pas pris dans les normes. Donc c'était d'abord un décret illégal. Donc nous avions protesté d'abord contre ce décret-là. Et nous, magistrats, nous avons un statut particulier. C'est ça ce que les gens devraient prendre aussi en compte.
Alara Kété Sanengar, le président du syndicat des magistrats au Tchad. Toujours au Tchad, le FONAC, le Front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement, maintient son mot d'ordre de ville morte pour demain 22 novembre sur toute l'étendue du territoire tchadien. Déjà, le mouvement citoyen LINA, en arabe local, cela veut dire « ça suffit », appelle la population à suivre cette consigne des opposants. Ce mouvement citoyen soutient également la marche pacifique des femmes syndicalistes de l'Union des syndicats du Tchad prévue pour la fin du mois de novembre et il entend aussi organiser une journée de funérailles du régime au pouvoir le 1er décembre 2016. RDC, la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bukova, a déploré aujourd'hui l'assassinat la semaine dernière d'un journaliste de la télévision publique congolaise par des hommes armés à Mbujimayi dans la province du Kasaï oriental. « Je condamne le meurtre de Marcel Loubala », a affirmé Mme Moukova dans un communiqué publié à Paris. Journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise, la RTNC, Marcel Loubala a été abattu par les hommes armés dans la nuit du 14 au 15 novembre dans la capitale du Kasaï oriental. Un assassinat condamné par plusieurs organisations qui dénoncent la multiplication des attaques ciblées contre la presse en RDC. Selon les autorités provinciales du Kasaï oriental, une enquête a été ouverte sur cette affaire. Rwanda, l'Église catholique rwandaise a une nouvelle fois demandé pardon pour tous les chrétiens impliqués dans le génocide de 1994 qui a fait environ 800 000 morts. Une lettre d'excuse signée par les évêques représentant les 9 diocèses du Rwanda a été lue ce dimanche dans toutes les églises du pays à l'occasion de la clôture par le pape François de l'année sainte de la miséricorde. Nous demandons pardon pour tous les chrétiens impliqués dans le génocide, a également déclaré aujourd'hui l'évêque Philippe Rokamba, président de la commission épiscopale rwandaise, rappelant que l'Église catholique du Rwanda avait déjà formulé de telles excuses en l'an 2000. Afrique de l'Ouest maintenant, au Mali, 5 militaires maliens tués hier dans une attaque attribuée à de présumés djihadistes pendant les élections communales. Dimanche après les opérations de vote, un convoi de l'armée qui transportait des urnes en vue du dépouillement a été attaqué par des djihadistes, a déclaré une source militaire malienne en précisant que 5 militaires maliens avaient perdu la vie alors que ce convoi venant du nord se dirigeait vers la localité de Douenza dans le centre du pays. Par ailleurs, les élections du 20 novembre n'ont pas pu se tenir dans une vingtaine des 688 communes du pays à cause de l'insécurité et des menaces posées par des bandits armés. Le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Pour la communale de 2016 au Mali, le sang a coulé. Il y a eu au moins 4 morts et une personne portée disparue. La tête de liste de l'ADEMA de Nara, traumatisée par des bandits armés, est décédée sous le coup de la paire. À Douanza, des hommes armés ont tué un candidat PSP, tout comme l'ami d'un député de l'URD dans la même localité. Des bandits sur moto ont ouvert le feu sur les participants d'une réunion qui se trouvait chez le maire de Djangourou, dans le cercle de Koro, région de Mopti. Cette attaque a occasionné la mort d'un jeune homme par balle. Deux autres personnes ont été blessées. À la veille du scrutin, le 19 novembre 2016 dans la commune de Djungani, région de Mopti, toujours dans le même cercle de Koro, la tête de liste du parti PRVM a été enlevée vers 6h du matin. Saïdou Bari, puisque c'est de lui qu'il s'agit, sa voiture a été retrouvée brûlée par des hommes armés qui l'ont conduit vers une destination inconnue. Toute la journée électorale du 20 novembre a été émaillée de coups de feu dans les régions de Mopti, Tombouctou et Gao. Conséquence, le vote n'a pu se dérouler dans une vingtaine de communes où des hommes armés ont brûlé les matériels électoraux, menacé des candidats et des organisateurs du scrutin. À Kidal, où le vote n'était même pas prévu, il y a eu une manifestation au cours de laquelle ils ont brûlé le drapeau du Mali pour dire non à l'organisation de la communale. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Libye, au moins 4 personnes tuées et 13 autres blessées ce lundi dans l'explosion d'une voiture piégée près d'un hôpital à Benghazi, dans l'est du pays. Les détails avec Nani Talani.
L'explosion a eu lieu devant l'hôpital Adjala, dans le centre de Benghazi, et ce bilan pourrait être révisé à la hausse. Un officier des forces spéciales, Mohamed Al-Jali, a ajouté que pour le moment, il n'est pas clair s'il s'agit d'une voiture piégée ou d'un attentat suicide. Benghazi est devenu le fief de plusieurs groupes djihadistes. Depuis plus de 2 ans, la ville est le théâtre de combats quotidiens entre les forces du général controversé Khalifa Haftar et des milices islamistes. La Libye est plongée dans le chaos depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011. Il a été renversé et assassiné après une rébellion soutenue par une intervention militaire de la France, la Grande-Bretagne et des États-Unis.
Conflit au Yémen, la coalition arabe conduite par l'Arabie saoudite a décidé ce lundi de ne pas renouveler la trêve de 48 heures soutenue par Washington en invoquant des violations systématiques des termes du cessez-le-feu par les rebelles chiites houthis. Selon le porte-parole de la coalition, le général saoudien Ahmed Asiri, il y a eu 563 violations au Yémen même et 163 à la frontière saoudienne. Rappelons que la guerre oppose les forces pro-gouvernementales soutenues notamment par l'Arabie saoudite à des rebelles chiites houthis accusés de liens avec l'Iran. Selon l'ONU, le conflit a déjà fait plus de 7000 morts et près de 37000 blessés depuis son intensification suite à l'intervention en mars 2015 de la coalition arabe en faveur du président yéménite Abd Rabo Mansouadi. En Afghanistan, un puissant attentat suicide a visé aujourd'hui une mosquée chiite de Kaboul, la capitale. Cette communauté était en pleine célébration d'une importante fête religieuse marquant le 40e jour suivant l'Ashura. Au moins 27 personnes ont trouvé la mort. Eric Manira Kiza.
C'est la troisième attaque contre les chiites dans Kaboul depuis le 23 juillet. Le kamikaze a déclenché sa charge au milieu des fidèles dans la mosquée. Un témoin, Nadir Ali, sur son lit d'hôpital, se rappelle de l'explosion et la poussière qui a entièrement recouvert la mosquée. Les premières images montrent des locaux dévastés et des débris dans des mares de sang. Cet attentat non encore revendiqué porte la marque du groupe État islamique. Celui-ci avait revendiqué précédemment un double attentat suicide ciblant cette minorité religieuse qui avait fait 85 morts. Dans un communiqué, le président Ashraf Ghani a condamné l'attaque qu'il a qualifiée de barbare. Il a aussi dénoncé des tentatives de division de la population afghane. En revanche, un habitant a reproché aux autorités d'être incapables d'assurer la protection des fidèles chiites, des mosquées, des pèlerins et leur rassemblement.
En Haïti, pas encore de résultats officiels après les élections de dimanche où 6 200 000 électeurs étaient appelés aux urnes pour choisir leur futur président ainsi que des députés et des sénateurs après une année de crise institutionnelle. Et pour terminer, politique ici aux États-Unis, le président élu Donald Trump a laissé entendre que de nouvelles nominations étaient imminentes. Mais aucun indice pour le moment sur le délai avant de nouvelles annonces de la part du président élu républicain qui s'est félicité de n'avoir eu que des bons rendez-vous dimanche avec des gens très bien. À ce jour, Donald Trump a nommé une poignée d'hommes contestés par les démocrates et les associations de défense des droits civiques, notamment le sénateur républicain Jeff Sessions pour le poste de ministre de la Justice, le député républicain Mike Pompeo comme directeur de la CIA, les services de renseignement. Mais Donald Trump a aussi pris soin d'ouvrir le cercle de ses consultations recevant des républicains modérés, des anciens ennemis, des personnalités de la société civile et des entrepreneurs dans le cadre de ses consultations.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.